Bonjour à tous et bienvenue sur Tendance Ouest pour ce grand débat à quelques jours des municipales. Les Français et donc les Canets ont rendez-vous dans les bureaux de vote dimanche, premier tour des élections. Ils sont neuf sur la ligne de départ à Caen, certains visages bien connus, d'autres un peu moins issus de tous les horizons. Nous allons diviser ce débat en deux parties. Nous recevrons tout à l'heure Antoine Casini, Thomas Chevalier, Aurélien Guidi, Bérangère Larini et Xavier Lecoutour. Mais je vais commencer par vous présenter les quatre candidats réunis pour débattre dès à présent dans cette première partie. Avec, pour commencer, dans l'ordre alphabétique, Pierre Kazewitz. Vous représentez Lutte Ouvrière, c'est votre cinquième campagne des municipales. Vous vous présentez à Caen depuis 2001, bonjour. Chantal Henry, pour vous c'est une première en tant que tête de liste à Caen. Vous menez celle du Rassemblement National et de l'UDR. Vous avez remplacé au pied levé Brice Derrette début février qui s'est finalement désisté. Bonjour.
Bonjour.
Rudy L'Orphelin, vous êtes conseiller municipal de l'opposition, membre des écologistes. Vous avez réuni d'ailleurs vous une partie de la gauche. Le Parti Socialiste vous soutient, tout comme le PCF ou encore Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann. C'est votre troisième candidature en tant que tête de liste. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, le maire sortant, maire depuis juillet 2024, quand vous avez succédé à Joël Bruno, élu député à l'Assemblée nationale. Aristide Olivier, vous vous présentez pour la première fois en tant que tête de liste avec derrière vous un rassemblement du centre et de la droite. Bonjour.
Bonjour à vous.
Voilà, les présentations sont faites. On va pouvoir débuter ce débat sur une thématique qui revient dans de très nombreuses communes du pays, que ce soit des grandes villes ou des plus petites, rurales ou non. La sécurité, c'est l'un des sujets majeurs de ces municipales 2026. Chantal Henry, je me tourne vers vous, puisque le hasard du tirage au sort fait que vous êtes désignée pour ouvrir le bal. La sécurité, c'est bien évidemment un sujet très important pour le Rassemblement national. Est-ce que vous en faites une priorité ici à Caen ?
Oui, je fais une priorité sur la sécurité. Au niveau national, nous avons 8% de violences sexuelles et physiques qui ont augmenté et je pense que Caen n'échappe pas à la règle. La sécurité est une priorité donc pour tous. Donc notre programme, c'est de pouvoir doubler l'effectif de la police municipale dans un premier temps. Ensuite, les équiper convenablement avec le fonds FIPD, avec des gilets allégés par balles. Ils ont besoin de caméras aussi piétons. Et nous avons une deuxième proposition pour notre plan sécurité 2032 avec l'expérimentation de bornes sécurité autour de la gare de Caen, par exemple, 50 bornes en hauteur pour les gens qui font des trajets de nuit ou quand ils rentrent tard le soir jusqu'à leur voiture, afin de pouvoir prévenir directement le service de surveillance.
Il y a un véritable sentiment d'insécurité à Caen, selon vous ?
Alors, moi, je pense qu'il faut mieux prévenir que guérir. On l'a peut-être pas encore tout à fait. On ne sait pas, comme dans les grandes villes, où l'insécurité est beaucoup plus certaine. Mais il faut prévoir dès maintenant, jusqu'à l'horizon 2032, pour être équipé et avoir ce qu'il faut. Il faut aussi des brigades canines supplémentaires. Il faut aussi des brigades dans les différents quartiers pour que tout le monde soit en sécurité. Parce que la peur doit changer de camp.
Pierre Kazewitz, vous êtes d'accord, c'est au maire d'agir pour assurer la sécurité dans sa ville ?
Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'abord, des gilets pare-balles ou des brigades canines, je ne vois pas en quoi ça augmentera, par exemple, la lutte contre les violences domestiques, contre les féminicides et contre tous les chiffres qui augmentent vraiment dans les chiffres d'insécurité. Puis moi, je crois que la grande cause de l'insécurité, c'est le chômage qui s'est installé dans les quartiers populaires, c'est la pauvreté qui pourrit la vie de tous, qui ruine l'avenir de la jeunesse. C'est le chômage, ouais. C'est le fait que toutes les grosses entreprises aient divisé par deux leur personnel et laissé des centaines de jeunes sans espoir d'emploi dans les quartiers. Et donc tant qu'on combattra pas ce chômage, tant qu'on partagera pas l'emploi entre tous en augmentant les salaires, quitte à bosser moins mais à bosser tous, il y aura pas de solution et le reste ce sera des solutions démagogiques pour essayer de draguer les électeurs, mais ça ne résoudra pas les problèmes.
Aristide Olivier, vous voulez faire de Caen une ville toujours plus sûre ?
Oui, comment d'abord en renforçant la présence humaine sur le terrain, parce que rien ne remplacera jamais la présence humaine. Donc c'est pour ça qu'on augmentera de 50% les effectifs de la police municipale, pour qu'elle soit présente à pied sur les différents quartiers de la ville, qu'on doublera aussi le nombre de caméras de vidéoprotection qui nous permettent soit d'agir en amont, soit aussi parfois dans les poursuites judiciaires. Donc on en a 100, on passera à 200. Et puis une politique de sécurité, c'est aussi une politique qui est équilibrée avec aussi le volet prévention, puisqu'on renforcera les moyens de la prévention spécialisée pour qu'on ait cet équilibre qui nous permet aujourd'hui quand même globalement, même si oui c'est vrai, il y a des tensions, oui c'est vrai que la délinquance augmente, mais elle augmente moins que dans les autres grandes villes de l'Ouest. Aujourd'hui, quand est une ville sûre, eh bien, on a encore les moyens d'anticiper, de mettre les moyens dès maintenant, encore supplémentaires, pour justement permettre de garder cet élément de qualité de vie, parce que je crois que si aujourd'hui on vit bien à Caen, c'est parce qu'on y vit justement en sécurité.
Rudy L'Orphelin, puisque Caen est une ville sûre, est-ce qu'il faut en faire plus, comme le veulent certains candidats ?
Écoutez, d'abord, nous, notre programme sécurité, il est aussi en grande partie fondé sur ce qu'on a pu entendre. On a été à la coude des Canaises et des Canais tout au long de ces derniers mois. Et je veux dire d'abord que notre approche, elle consiste à remettre l'humain au cœur du dispositif de sécurité pour un juste équilibre entre protection, prévention et répression. Et c'est une des raisons pour laquelle une de nos propositions phares sera d'ouvrir des antennes de la police municipale dans les quartiers canais, parce qu'une chose est sûre et qui remonte très clairement du terrain, c'est cette difficulté d'être dans la proximité. Nous, on veut une police sur le terrain, connue de ses habitants, au plus proche, favoriser l'illotage, les brigades à pied, les brigades cyclistes, de façon à ce que une relation de confiance se noue durablement entre les habitantes, les habitants, les acteurs du quartier et notre police municipale. Et on souhaite également, de ce point de vue-là, parce que ce sont des choses que nous entendons, j'habite par exemple au Chemin Vert, ce sont des choses que nous entendons de façon récurrente, c'est la question de la lutte contre le narcotrafic, de la lutte contre les points de deal. Au Chemin Vert, par exemple, de plus en plus de personnes nous disent « moi, je ne veux plus aller au centre commercial Molière parce qu'il y a les points de deal, parce que je me sens en situation d'insécurité ». On a identifié dans un certain nombre de quartiers, on les connaît, ces points de deal, et donc il y a une nécessité de renforcer les coopérations entre police nationale, police municipale, actrices et acteurs des quartiers pour lutter efficacement contre le narcotrafic, contre les points de deal. Je pense que c'est un enjeu majeur. Et puis je voudrais ajouter aussi un autre point. C'est celui de la nécessité de construire la politique de sécurité avec les habitantes et les habitants. Et c'est pour ça qu'on propose la création de comités de tranquillité publique. Pourquoi ? Tout simplement parce que les situations sont différentes selon les quartiers. Enfin, on fera de la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles un enjeu majeur de ce mandat, à la fois parce qu'il nous faut accompagner, former les policiers municipaux, mais aussi toutes celles et ceux qui sont dans nos services publics en situation d'accueil, pour mieux alerter, pour avoir des dispositifs efficaces, mais aussi pour accompagner. Accompagner, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire garantir un accueil des victimes et aussi reloger ces victimes avec un renforcement du nombre de places d'hébergement d'urgence et une priorité qui doit être affichée dans le logement social, en particulier pour les femmes victimes de violences.
Chantal Horry, la proximité, c'est quelque chose de très important.
Oui, bien sûr.
La tête.
Bien sûr, la sécurité, c'est la mairie doit être le bouclier en fait de la sécurité. Et pour pouvoir intervenir dans ces quartiers, comme Monsieur L'Orphelin le dit, il nous faut fatalement plus de policiers municipaux. Sans eux, on ne pourra pas y arriver. Et il faut qu'on les voit dans les rues, qu'on voit des patrouilles. Moi, j'habite également au Chemin Vert, donc je sais exactement ce qui se passe aussi là-bas. Et les gens n'osent plus aller dans ce centre commercial après une certaine heure, parce qu'ils sont dérangés et indisposés régulièrement. Donc il faut que la police municipale patrouille dans les rues pour pouvoir rassurer la...
Pierre Kassovitz, oui, la confiance s'est perdue envers...
Oui, elle s'est perdue. On connaît tous apparemment le Chemin Vert. J'ai beaucoup d'échos de là-bas. Il y a des problèmes d'incivilité, il y a des problèmes de... où la vie des gens, elle est pourrie par des petites choses comme ça, même si comme certains l'ont dit, c'est pas la terreur, du tout. Les gens, ils vont encore quand même au centre commercial... Simplement, il est fermé, pas celle que je connais, mais il est fermé à partir d'une certaine heure. Cela dit, voilà, ce qui pourrit aussi la vie des gens, c'est la précarité, c'est le fait que les factures, ils peuvent pas les payer s'ils n'ont pas 35 heures par semaine, s'ils ont des temps partiels ou s'ils perdent leur contrat d'intérim. Et c'est le fait que tout ce qui se dégrade dans les tours HLM, finalement, il n'y a pas pas de suivi puisqu'ils sont pas écoutés, qu'il y a, comme on a vu dans la presse, des problèmes de chauffage récurrents. Donc, si vous voulez, ça, tout ça, ça se résume pas à comment rendre une police plus proche des citoyens, qui en plus, entre parenthèses, moi, la police nationale, en tout cas, je l'ai beaucoup vue quand on manifestait pour le mouvement des retraites, et moi, ça me pose question qu'on dise, pour aider les gens, va falloir plus de moyens à la police, parce que peut-être ses chefs l'enverront nous taper dessus demain quand on protestera pour nos droits. Donc non, moi je crois qu'il faut s'attaquer aux racines de l'insécurité, c'est-à-dire la pauvreté, la précarité, et c'est les travailleurs qui pourront faire payer les grands patrons, l'État aussi, parce que c'est là qu'il y a l'argent et c'est là qu'il y aurait les moyens de régler les problèmes.
Je voudrais juste ajouter pour aller en partie dans le sens de ce que dit Pierre Kassévitz, qu'effectivement la question de la lutte contre la précarité, mais aussi le soutien à nos quartiers et à leurs habitants pour comment sortir un certain nombre de jeunes et de personnes de l'économie illégale, ça c'est un enjeu absolument essentiel. Moi j'y travaille notamment avec Amine Kessassi, qui est, vous le savez peut-être, un des symboles de la lutte contre le narcotrafic à Marseille, avec effectivement l'idée de créer un pool de villes dans lesquelles on peut s'interroger sur la manière dont on accompagne les personnes qui sont dans le narcotrafic vers l'économie légale. Et ça c'est essentiel, et donc il faut cet équilibre entre prévention et répression.
Et est-ce que vous voulez armer la police municipale, monsieur l'orphelin ?
Elle est déjà armée.
On en parlera juste après la pub. On fait une petite pause tout de suite. Je suis désolé, on revient tout de suite sur Tendance Ouest. De retour sur Tendance Ouest pour ce débat à propos des élections municipales à Caen. Autour de la table, quatre candidats. Pierre Kassévitz pour Lutte Ouvrière, Chantal Henry du Rassemblement National, Rudy L'Orphelin, soutenu par les écologistes, le PCF ou le PS entre autres, et le maire sortant, Aristide Olivier. Je vous ai coupé tout à l'heure, Chantal Henry. Pour conclure rapidement sur le thème de la sécurité, vous évoquiez l'armement de la police municipale.
Tout à fait, je voulais demander à monsieur L'Orphelin s'il voulait finalement plus de police municipale ou pas, et puisqu'elle était armée, est-ce que ça lui pose un problème ou pas ?
Je veux d'abord prioritairement redéployer en créant des antennes de police municipale dans les quartiers et après une analyse et un examen du fonctionnement et des effectifs, regarder dans quelle mesure on peut augmenter l'effectif de la police municipale, l'étiage me semblant être celui d'un policier pour 1000 habitants, premièrement. Deuxièmement, la question de l'armement de la police municipale est un faux débat. Notre police municipale, elle est armée, elle a vocation à rester armée. Et du reste, j'ai été en responsabilité dans cette ville, elle était déjà armée. Et il n'a jamais été question de la désarmer.
Aristide Olivier.
Non, moi, simplement pour conclure, simplement pour dire que... Moi, je considère vraiment que la sécurité, c'est quand même la première des libertés. Et donc, il faut qu'on soit en rendez-vous avec l'ensemble des outils qui ont été d'ailleurs exposés. Évidemment, la présence humaine, qu'on va renforcer, qu'on a déjà commencé à renforcer d'ailleurs cette année. La brigade canine, la vidéoprotection, qu'on a peu évoqué, mais qui est quand même un enjeu assez fort pour pouvoir anticiper et ensuite traiter. Je pense qu'il y a des divergences d'ailleurs de point de vue sur ce sujet-là, puisque vous aviez même voté contre quand il a fallu équiper la ville de caméras de vidéoprotection. Je crois vraiment qu'il faut être au rendez-vous avec l'ensemble des outils. Il ne faut pas regarder les choses de manière dogmatique, mais regarder réellement ce qui fonctionne et les mettre en application pour garder une ville sûre, ce qui est le cas aujourd'hui.
On change de sujet désormais pour évoquer l'attractivité du centre-ville, faire venir les habitants de Caen ou ceux qui viennent de plus loin, c'est vital pour soutenir l'activité économique et les commerçants du centre-ville, mais on constate de plus en plus que les centres commerciaux situés en périphérie comme Mondeville 2 vident un peu les rues du centre-ville. Vous, Rudy L'Orphelin, selon vous, est-ce qu'on peut lutter contre ces grands centres qui ont été pensés expressément pour aller faire ces achats ?
Je crois que vous avez raison de le souligner. D'abord, il faut lutter avec la première énergie contre l'extension sans fin des centres commerciaux en périphérie. C'est ce que nous avons toujours défendu et soutenu et nous continuerons de le faire. Et je pense par ailleurs que sur ce point, il y a un accord et un consensus et ça me semble être très bien. Deuxièmement, effectivement, par rapport à la fois à l'extension des commerces en périphérie, mais aussi par rapport au e-commerce qui se développe, il y a une fragilité potentielle de nos commerces et de nos commerces de proximité. Alors moi, je le dis, il faut qu'on puisse se battre à l'échelle du centre-ville, en particulier avec nos armes. Et nos armes, eh bien, c'est la qualité de nos espaces publics, c'est l'expérience qu'on va pouvoir proposer aux habitantes et aux habitants au Chaland. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous proposons d'étendre le plateau piétonnier du centre-ville pour créer de nouveaux flux piétons, mais aussi transformer, accompagner la transformation des espaces publics pour plus de qualité. C'est pouvoir s'asseoir en ville, c'est pouvoir se poser, c'est pouvoir bénéficier aussi de liaisons qui permettront de mieux identifier nos grands spots touristiques. Voilà, tout ça, ça peut contribuer effectivement à l'attractivité du centre-ville. Et puis vous l'avez dit, je me permets de l'ajouter, vous avez dit les habitants ou les personnes qui viennent de l'extérieur de Caen. Moi, je pense aussi que notre centre-ville, il mérite toute notre attention en matière de logement. On a une opération en cours qui s'appelle l'Écrin, construction d'une poignée de logements qui vont sortir à des coûts à 8 ou 10 000 euros le mètre carré. Eh bien, l'enjeu de notre centre-ville, c'est qu'il reste accessible, et y compris qu'il reste accessible à toutes celles et tous ceux qui pourraient souhaiter y habiter. Et je pense que c'est malheureusement de moins en moins le cas aujourd'hui.
Sur le sujet de l'attractivité du centre-ville.
Et ça fait aussi partie de l'attractivité de pouvoir maintenir nos habitants à Caen.
Vous voulez provoquer les assises du commerce si vous êtes élu, c'est qu'il y a un problème à Caen ?
Alors oui, il y a des tensions aujourd'hui sur le commerce, pas qu'à Caen, dans toutes les grandes agglomérations. La presse s'en faisait encore l'écho hier. Donc oui, on doit être proactif de ce domaine-là. D'abord, comment ? Effectivement, avec une méthode, en réunissant, parce que ce sont les commerçants qui font le commerce, c'est pas les élus. Ce sont nous, on est les facilitateurs pour faire en sorte qu'ils puissent justement développer leur activité. Plusieurs leviers. D'abord, faciliter l'accès à la ville qui a été rendu plus difficile. C'est pour ça qu'on propose une gratuité du stationnement, notamment pendant les travaux du tram. C'est pour ça qu'on va créer un nouveau parking de 350 à 400 places à proximité du centre-ville. Et puis ensuite, il faut qu'on soit là aussi proactif dans la redynamisation, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse avoir une pression à la baisse sur les loyers qui sont très élevés sur Caen grâce à la foncière. C'est-à-dire qu'on va concrètement on achète la case qui nous permet de proposer des loyers inférieurs au prix du marché. Voilà, on doit travailler aussi sur un planning d'animation concerté pour faire venir du flux, notamment sur la période de Noël qui représente entre 20 et 25% du chiffre d'affaires des commerçants. Voilà, on a là aussi, il faut agir ensemble, mais avec eux, parce que ce sont eux qui font le commerce au quotidien. Je répondrai simplement que la ville ne se vide pas, contrairement à ce que je viens d'entendre. Oui, il y a des tensions. Oui, on résiste mieux à Caen, parce qu'on a un taux de vacances qui est près de 2 points inférieur à la moyenne nationale. Et elle se vide d'autant moins qu'on a gagné 4000 habitants sur les 5 dernières années, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que la ville se vide.
Des animations, des parkings, Chantal Henry, comment on convainc les clients de se rendre dans le centre-ville de Caen pour aider les commerçants ?
Exactement par la même chose. Nous, on a fait la tournée des commerçants en début de campagne et le constat était le même pour tous, c'est qu'il manquait des places de parking pour les gens pour venir. Le parking était cher et il y avait eu un petit souci sur les animations de Noël. Le centre-ville avait été vidé à partir de 17h et on nous l'a fait remarquer. Ils aimeraient bien que l'horaire change pour le calendrier de l'Avent pour que les commerçants ne ferment pas boutique dès 17h. Nous, on a pensé à la création de parkings silos qui sont des parkings écologiques et économiques. C'est 400 places, c'est 12 000 euros la place au lieu de 30 000 pour un parking souterrain. On peut faire ça du côté de la rue Martin Luther King à la limite de Saint-Comté, par exemple. Donc on voudrait en faire deux, ça fait déjà 800 places.
Vous avez dit le parking, le stationnement coûte cher, il faudrait baisser les tarifs.
Oui, alors on a pensé, nous en fait, pour vraiment, le problème des zones périphériques, c'est que le parking gratuit, c'est facile d'aller passer la journée dans une zone périphérique et de ne pas dépenser en plus de l'argent pour le parking. Donc nous, on préconise la première heure gratuite en souterrain et en surface, et le samedi, que cela redevienne cœur de ville, comme ça pouvait l'être le jeudi après-midi, gratuit l'après-midi également pour la clientèle.
Pierre Cassévis, comment on dynamise le centre-ville de Caen, c'est en aidant les automobilistes
Écoutez, j'entends plein d'idées dans tous les sens, mais quand les gens n'ont pas d'argent, je ne vois pas comment ils peuvent acheter dans les commerces. On a vécu dans un certain nombre de supermarchés, vous l'avez peut-être vu vous-même, ce qui a été vécu dans d'autres villes, c'est la rupture des œufs, parce que les familles des couches populaires, elles en sont à acheter moins de viande et de poisson, c'est trop cher, et à acheter plein d'œufs. Et donc, quand on en est là, je ne vois pas, enfin moi, ça me semble complètement hors sol de discuter pour les travailleurs, en tout cas, de comment on va les amener à venir faire leurs courses en centre-ville, quand leur pouvoir d'achat, il se casse la gueule. Et puis, il y a quelque chose qui me dérange quand même dans ces discussions, c'est que on fait comme si de rien n'était. Le monde, il est quand même en train de partir en vrille. D'ailleurs, même si c'est pas ce qui me choque le plus dans la nouvelle guerre qui a démarré en Iran, tout le monde nous dit il va y avoir des hausses de prix. D'ailleurs, ça a commencé pour le carburant. Donc tout ça, ça balayera toutes les mesures et tous les projets qu'on peut faire localement. Si les prix reprennent 10% ou 20% dans les deux prochaines années, vous comprenez bien que les commerces, ce sera. Et puis si la guerre, elle s'installe dans notre quotidien, si, comme disent certains généraux, faut que nos gamins y partent l'affaire et peut-être y crever, vous comprendrez bien que c'est des problèmes qui sembleront secondaires et à juste titre. Donc moi, j'ai surtout envie de crier ma révolte contre ce monde qui devient complètement dingue et de dire ces problèmes-là, c'est ceux sur lesquels il faut se prononcer aujourd'hui, parce que les problèmes d'aménagement de notre ville et des problèmes du quotidien qui sont importants, ils seront relégués au second plan si l'actualité nationale et internationale, elle s'impose à nous dans les semaines ou les mois qui viennent, quoi.
Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir été sur notre plateau. C'est terminé pour évoquer les sujets de la sécurité, l'attractivité du centre-ville. Il sera possible tout à l'heure de réécouter ce débat en se rendant sur podcast.tendanceouest.com. On va faire une petite pause, le temps de changer d'invité. On se retrouve dans quelques minutes avec Antoine Casini, Thomas Chevalier, Aurélien Guidi, Bérangère Larini et Xavier Lecoutour avec un débat autour d'un autre sujet majeur à Caen, à savoir celui de la crise du logement. Que faire pour sortir de cette crise alors que la ville est placée en zone tendue depuis plus de 2 ans maintenant? Nous allons écouter les propositions des différents candidats. À tout de suite. Et vous êtes toujours sur Tendance Ouest, deuxième partie de ce grand débat avant le premier tour des élections municipales à Caen. Et nous accueillons 5 nouveaux candidats sur notre plateau, encore une fois dans l'ordre alphabétique. Antoine Casini, tout d'abord, vous vous présentez pour la première fois à Caen avec le soutien du Parti Radical de Gauche, de l'engagement d'Arnaud Bonnebourg et d'Equinox. Bonjour.
Bonjour.
Thomas Chevalier, première candidature aussi. Vous vous réclamez du centre indépendant. Vous avez assemblé derrière vous une coalition de petits partis. Bonjour.
Merci pour l'accueil.
Aurélien Guidi, vous êtes le candidat désigné par la France Insoumise, soutenu aussi par Génération. Vous étiez déjà de la partie en 2020. D'ailleurs, vous siégez depuis au conseil municipal à Caen au sein de l'opposition. Bonjour.
Bonjour.
Bérangère Larini, vous représentez le NPA révolutionnaire. C'est votre première candidature à Caen. Vous êtes enseignante. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, un habitué des élections locales, Xavier Lecoutour, vous êtes au conseil municipal depuis 1995, ancien adjoint à l'urbanisme de Philippe Buron. Vous faites partie depuis 2014 donc de l'opposition et vous représentez Citoyens à Caen, un mouvement de gauche qui se réclame d'une totale indépendance vis-à-vis des partis. Bonjour.
Bonjour.
Et je vais pouvoir maintenant lancer un sujet majeur à Caen, celui des logements. Caen est classé en zone tendue depuis août 2023. Des familles doivent attendre des mois, voire même des années pour obtenir un logement social dans la ville ou dans l'agglomération. Le coût des loyers a fortement grimpé. Je commence par vous, donc Aurélien Guidi, la France Insoumise, avec ce tirage au sort. Est-ce qu'il y a urgence à Caen? Est-ce que la situation est vraiment devenue hors de contrôle?
Vous l'avez dit, oui, il devient de plus en plus difficile de se loger à Caen. On est dans une situation tendue, effectivement, depuis bientôt 3 ans. Les prix de l'immobilier ont augmenté, 88% sur 20 ans, alors que dans le même temps, les salaires, eux, n'ont augmenté que de 13%. Quand on regarde sur une période plus récente, le prix du logement a bondi de 1000 euros sur 6 ans par mètre carré. Donc oui, il devient difficile de se loger et il est urgent d'agir pour sortir la question du droit au logement, le sortir de la spéculation immobilière. Donc ça passe par une série de mesures pour répondre à cette urgence.
Qu'est-ce qu'on fait?
Donc ce que l'on propose, c'est tout d'abord un encadrement des loyers, comme la loi le prévoit, du fait de cette situation tendue. Ça passe aussi par davantage de construction et de réhabilitation de logements pour répondre aux demandes. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 12 000 demandes justement de logements sociaux qui sont faites tous les ans et seulement 2000 qui sont acceptés. Donc on a une réelle difficulté et s'ajoute à cela une autre difficulté, c'est aussi la concurrence du tourisme avec notamment Airbnb où on a plus de 1100 logements qui sont mis en location sur ces plateformes et là aussi il faut agir pour encadrer. Donc c'est ce qu'on propose et l'autre problématique c'est la question des étudiants, hein. Les premières victimes ce sont les étudiants qui ont du mal à se loger à Caen et donc ce que nous proposons c'est construire des résidences étudiantes municipales avec des loyers modérés de façon à leur permettre de se loger correctement et sur cette question justement de la qualité de l'habitat. Ce que nous proposons, c'est la création d'une brigade de l'habitat qui puisse être saisie par les locataires de façon à répondre à des besoins, notamment en termes de gestion locative, où on voit qu'il y a des passoires énergétiques qui se multiplient, des propriétaires qui sont peu scrupuleux à louer des biens qui sont parfois de mauvaise qualité. C'est aussi une façon d'accompagner les propriétaires dans les travaux de réhabilitation de leur logement, parce que nous avons aussi à Caen plus de 6000 logements qui sont inoccupés, qui sont vacants, et cette vacance supérieure à la normale, elle s'explique aussi par les difficultés à pouvoir réaliser des travaux d'amélioration de l'habitat pour ainsi les remettre sur le logement, sur le marché. Pardon.
Je me tourne vers vous, Bérangère Larrény.
Oui.
Est-ce qu'il manque des logements sociaux à Caen et dans l'agglomération? Et si oui, est-ce qu'il faut construire massivement?
La problématique du logement, en fait, elle est la même à Caen que partout ailleurs, en fait, sur le territoire, et elle est organisée de façon capitalistique, c'est-à-dire que c'est pas fait pour répondre à des besoins, c'est un investissement en fait pour la plupart des gens. On a quand même la moitié du parc locatif privé qui est détenu par 3,5% de la population qui sont des multipropriétaires en fait. Donc d'un côté, on a l'État et les collectivités territoriales qui veulent que ça coûte le moins cher possible et de l'autre côté, des propriétaires privés pour qui il faut que le logement rapporte le plus possible. Et l'État, là-dedans, fait en sorte aussi d'aider à l'investissement, puisqu'on a des séries de mesures hein, tout au fil du temps, de niches fiscales, en fait, le budget, là, le dernier budget, créant le statut de bailleur privé. Donc, c'est une niche fiscale en plus pour inciter à l'investissement.
Donc, c'est aux collectivités de reprendre la main?
Non, nous, on pense qu'il faut, du coup, sortir de ce système capitaliste qui organise la société et le logement, là, en particulier, et poser la question de qui décide de ce qu'on fait, comment on le fait. Et ce qu'on pense, nous, c'est que c'est aux travailleurs et travailleuses, ceux qui produisent les richesses, de reprendre la main sur l'organisation de la société et de décider eux-mêmes de comment ils le font, de ce qu'ils font, ils savent le faire. Hein. La société, elle a toutes les ressources possibles pour tout un tas de sujets qui nous concernent. Et donc, il faut que les travailleurs puissent reprendre la main là-dessus. Juste une mesure, en fait. Hein. Nous, on a comme objectif de lutte, puisqu'on n'a pas un programme de mesures individuelles point par point. On a des objectifs de lutte autour desquels on voudrait que les travailleurs et les travailleuses se réunissent, se mobilisent et s'approprient en fait, ces mesures. C'est par exemple pas un revenu en dessous de 2000 euros. Quand on sait que pour se loger à peu près dignement sur Caen, il faut à minima avoir un loyer de 650 euros, si on multiplie par 3, puisque c'est ça qu'on demande, hein, avoir le tiers du loyer, on arrive à des revenus de 2000 euros. Donc nous, on est sur une mesure de 2000 euros pour pouvoir se loger dignement à Caen.
Justement, les loyers sont peut-être trop chers à Caen. On a entendu Aurélien Guidi proposer l'encadrement des loyers. Antoine Casigny, est-ce que ça vous semble réalisable?
Pas l'encadrement des loyers, il existe déjà à partir du moment où vous avez un décret qui dispose que Caen est en zone tendue. D'abord, je voudrais dire que c'est un sujet majeur, c'est la première préoccupation des Caennais, et c'est sans doute certainement l'échec le plus patent de la majorité sortante. C'est quoi le problème du logement à Caen? C'est Scheherazade et son ami Eric qui vivent dans 62 mètres carrés, boulevard Lyautey, 800 euros, alors qu'ils sont dans un parc social. Un appartement dans un parc social, 62 mètres carrés, 800 euros, mal entretenu, mal chauffés. Ils veulent en partir, ils ne trouvent pas d'autres locations. C'est aussi, par exemple, hier, j'étais en porte-à-porte, Eric et Chloé, dans le calvaire Saint-Pierre, ils paient un loyer de 1000 euros pour 75 mètres carrés, tous les deux travaillent, ils ne peuvent pas accéder à la propriété en raison du renchérissement du prix du mètre carré.
Une fois qu'on a identifié le problème, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, quand on a identifié le problème et qu'on s'aperçoit que ça touche au cœur de la vie des gens. Parce que je répète, le logement, c'est le premier poste de dépense. Et la première préoccupation des Canets et des Français, c'est le pouvoir d'achat. Ben, y a un document qui existe, qui est un document extrêmement politique. C'est le document d'urbanisme. C'est le plan local d'urbanisme qui va constituer les conditions de la construction de plus de logements à Caen. Il faut construire plus de logements à Caen. Et moi, je dois dire que je suis étonné que le document qui a été arrêté au mois de juillet, qui a été voté, n'ait pas fait l'objet de plus d'opposition de la part de l'opposition municipale. C'est un document politique qui, en l'état, exclut les classes populaires et les classes moyennes. Parce que il ne crée pas assez d'offres. Il ne suscite pas assez d'offres. Et donc, si vous ne suscitez pas d'offres, même si vous encadrez, même si vous plafonnez, l'offre, c'est la loi du marché, l'offre et la demande ne se rencontrent pas, ou ils se rencontrent par une augmentation des loyers et par une augmentation du prix du mètre carré. Donc, moi, j'assume, parce que c'est le droit élémentaire de chaque Canet de pouvoir être logé, d'augmenter la construction à Caen, que ce soit sur la ZAC Beaulieu, que ce soit la ZAC Moncoco, et d'une certaine manière sur la Presqu'île, pour répondre à la première, au premier des droits des Canets, c'est-à-dire d'être logés là où ils sont nés, là où ils travaillent.
Et plus que construire, Thomas Chevalier, vous prenez aussi la rénovation, la réhabilitation de certains bâtiments, et notamment la tour du CHU, qui est vouée pour le moment à la destruction.
Oui, tout à fait, merci. Alors, donc, notre programme se décompose en 5 parties, environnement, commerce, logement, sécurité, tradition. Et justement, donc, dans cette partie logement, donc, on voudrait rénover et construire des logements familiaux, jeunes actifs, étudiants. Donc, rénover avec un bouquet donc, de nouveaux logements ou de logements remis à neuf, quel que soit l'électorat, on ne s'adresse pas à une population particulière. Et enfin, concernant la tour Côte-de-Nacre, on a un sujet qui est assez, qui a fait l'objet de beaucoup de désinformations de la part de la droite ici à Caen. C'est que cette tour Côte-de-Nacre, elle peut accueillir aujourd'hui, si elle est rénovée, à peu près 2 à 3000 logements étudiants. Ce qui se passe, c'est que la droite ici à Caen a très peur d'avoir un bâtiment qui regroupe autant de personnes qui ne vont pas forcément leur être favorables électoralement parlant. Le coût qui a été affiché par Joël Bruno à l'Assemblée nationale, c'est 280 millions d'euros pour rénover la tour Côte-de-Nacre, contre 110 millions d'euros pour la détruire. Sauf que dans cette équation, le coût, la partie qui manque, c'est simplement les nouvelles constructions. Avec 110 millions d'euros, aujourd'hui, on se retrouve avec un terrain vague à la place de la tour Côte-de-Nacre. Et je peux vous assurer que, connaissant la droite à Caen, on n'aura clairement pas des logements destinés aux étudiants ou aux plus précaires à la place de la tour Côte-de-Nacre. Et ensuite, ça prendra un temps considérable. Aujourd'hui, on a une pression énorme sur le logement à Caen, en général. Et les logements étudiants, les colocations, en fait, prennent de la place sur les logements qui sont destinés plutôt à des jeunes actifs, à des couples avec des enfants, ou même à des familles déjà plus élaborées. On est capable aujourd'hui de remplacer cette tour Côte-de-Nacre, de remplir cette tour Côte-de-Nacre de logements, et donc d'utiliser ce levier pour relâcher d'un coup la pression sur le logement à Caen. Et pour la question du désamiantage, le coût, parce que ce sont des normes environnementales, aujourd'hui en France, est exactement le même qu'on désamiante la tour Côte-de-Nacre pour la réhabiliter, ou que simplement on transforme cette tour Côte-de-Nacre, qu'on jette le béton de la tour Côte-de-Nacre.
Donc il n'y a pas de coût supplémentaire. C'est réalisable pour vous de construire des logements de réhabiliter la tour Côte-de-Nacre pour y faire des logements ?
Clairement pas, mais puisque vous me posez la question du logement, je vais élargir la problématique. Ça a été dit, c'est un des échecs les plus patents de la majorité actuelle. C'est pas faute d'avoir prévenu. Je crois que là, il y a quelque chose qu'il faut aussi rappeler. Et puis, nous avons, comme l'a dit Antoine Casini, un programme, le plan local d'urbanisme, qui est en train, qui n'est pas voté, hein. Il sera voté en 2027. Ce qui nous laisse l'opportunité d'intervenir si on est élu. Je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait important. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'on aura la solution quand on fera correspondre l'offre à la demande. Nous sommes victimes d'un échec de diagnostic il y a 10 ans, qui était de vouloir accueillir des familles, et exclusivement des familles, et de promouvoir la construction de grands logements. Ça n'est pas venu. Actuellement, la demande, c'est quoi ? Ce sont les étudiants et les seniors. Ce sont des petits logements. Il nous faut donc très clairement réorienter, et ça c'est le PLUI qui le fera, réorienter la construction vers les petits logements. Quand on construit un petit logement, eh bien, on libère automatiquement un grand logement, et je pense en particulier aux seniors. Il faut réintroduire de la fluidité dans le marché immobilier à Caen pour permettre de libérer des grandes maisons qui sont à Caen occupées par une personne. Et la deuxième chose, si vous me permettez, il faut aussi penser aux habitants à Caen avec l'augmentation de leurs charges. Parlons-en aujourd'hui, l'augmentation des charges de chauffage. Et un des axes majeurs qu'il va falloir mettre en œuvre, c'est la réhabilitation des logements. Là aussi, c'est un volet du PLUIHM. Nous devons investir en aidant les propriétaires pour eux-mêmes et aussi pour leurs locataires, afin que les charges de chauffage soient beaucoup moins élevées.
Antoine Casini, vous avez dit vouloir construire à Caen. Est-ce que vous voulez aussi réhabiliter les logements, comme le dit Xavier Lecoutour ?
Et évidemment, je citais l'exemple de cette jeune maman, Scheherazade, qui vit dans un logement social. Et force est de constater qu'on a, avec l'opérateur Caen La Mer Habitat, un vrai problème. On l'a vu pendant la période hivernale, avec des problèmes récurrents de chauffage dans tous les quartiers. Donc on a un parc social qui est vieillissant, qui a été mal entretenu, et on a besoin de faire des investissements importants. Alors, les investissements ne dépendent pas simplement de la collectivité. Il y a aussi une ambiance nationale avec des financements qui doivent être apportés. Mais on a effectivement un échec. Il y a un double échec. Il y a un échec de la construction, de l'offre, et avec les fluidités et une bonne gestion nécessaire. Et puis, on a un échec sur le parc social, puisqu'il y a, sur Caen-la-Mer, 21 000 dossiers en attente, et effectivement, donc un problème d'offre, mais aussi un problème de gestion. Effectivement, nous, nous sommes favorables à un vaste plan de rénovation énergétique, parce qu'effectivement, il y a une explosion des charges, parce que quand je disais, et je parlais de Scheherazade, 800 euros dans le parc social, dans un appartement, c'est sans les charges, et avec l'explosion des charges, notamment des factures d'énergie, on se rend compte des difficultés que rencontrent nos concitoyens sur ce sujet, comme sur tant d'autres.
Aurélien Guidi, vous avez évoqué les logements vacants entre 5 et 6 000, notamment liés au DPE. Est-ce que c'est possible de les réquisitionner ?
C'est ce qu'on souhaite faire. Pour nous, il est scandaleux, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette logique spéculative autour de l'immobilier, autour du logement. Il est scandaleux qu'on ait 6 000 logements qui soient vacants, alors que dans le même temps, on a des personnes qui sont à la rue. On a 80 enfants à Caen qui vivent dehors. C'est inacceptable. Et tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là, on n'aura rien fait. Et donc oui, ce que l'on propose, eh bien, c'est de pouvoir réquisitionner des logements vacants, mais aussi préempter des logements mis en vente, de façon à pouvoir ensuite les mettre à disposition d'associations qui en assureront la gestion pour permettre une mise à l'abri à la fois des personnes à la rue, mais aussi, et ça a été évoqué tout à l'heure dans l'émission pour le volet sécurité, mais aussi mettre à l'abri les femmes victimes de violences conjugales. Voilà.
Thomas Chevalier, votre avis, vous, sur la réquisition, est-ce que c'est une bonne chose ?
Alors, c'est très simple. En France, le droit français protège la propriété privée. C'est l'un des pans de notre droit qui est le plus protecteur pour les citoyens. Il est donc complètement impossible pour un maire aujourd'hui de réquisitionner des appartements qui appartiennent à des gens. Le concept même des Airbnb, c'est que des gens qui ont réussi à acquérir un appartement, en plus de leur résidence particulière, vont l'exploiter à titre commercial. C'est des revenus qui sont extrêmement scrutés et encadré par l'État. Donc, on ne peut pas aujourd'hui en France s'emparer comme ça de la propriété privée de gens, même si je comprends tout à fait les points de vue. On a tous des... Voilà. Alors, personnellement, j'ai pas d'Airbnb, je n'exploite pas d'Airbnb, j'ai pas d'amis autour de moi qui exploitent d'Airbnb, mais le sujet, c'est que ce sont des appartements qui appartiennent à des gens, c'est de la propriété privée. On ne peut pas déposséder comme ça les gens en France sous prétexte qu'on a la flemme de rénover le parc immobilier Canet, ou de construire.
À quand on a une minorité de personnes, pardon.
Ouais. Oui, je veux bien m'exprimer sur les réquisitions, parce que pour le coup, c'est intéressant. Effectivement, il y a plus de logements vacants que de gens qui sont à la rue, sans compter les expulsions, en fait, et y compris aussi, en fait, les exilés qui, parce que n'ont pas de papier, sont vulnérabilisés et jetés à la rue sans droit. La réquisition, c'est intéressant parce que, précisément, ce n'est pas une attaque à la propriété privée, en fait.
C'est pas
une expropriation. Et quand le préfet décide de réquisitionner, en fait, les propriétaires sont indemnisés. Donc on est pour la réquisition parce que c'est un minimum, mais en fait, on peut même pas dire que c'est une mesure anticapitaliste pour nous, puisque ce n'est pas une atteinte à la propriété privée. Le problème de la réquisition, c'est qu'en fait, il y en a eu pas mal, en fait, notamment sur Paris dans les années 90, après des gros mouvements d'occupation, en fait, et c'est Jacques Chirac qui avait réquisitionné. Donc c'est pour vous dire que c'était pas le plus gauchiste des gauchistes. Et depuis, en fait, quand des maires prennent prennent des arrêtés de réquisition, en fait, ils sont retoqués très régulièrement par les tribunaux administratifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le rapport de force, il n'est pas dans le camp des travailleurs, en fait. Et c'est ça, nous, qu'on veut redire dans le sujet du logement est précisément, en fait, un bon exemple pour parler de ça. C'est-à-dire que le rapport de force n'est pas en faveur du monde du travail, des classes populaires. Et donc, il faut se mobiliser. La réquisition, elle ne tombera pas du ciel, en fait. Si on veut réquisitionner des logements, il faudra l'imposer. Par des mobilisations massives, en fait, en inversant le rapport de force avec tous les concernés, en fait, qui l'arracheront.
Voilà. Xavier Lecoutour, on a évoqué tout à l'heure rapidement les logements Airbnb. Est-ce qu'il y en a trop à Caen ? Est-ce qu'il faut réguler ? Quel est votre point de vue ?
Ah oui, mon point de vue est que Caen, dans la situation actuelle, est sur une mauvaise pente sur cette question-là. Que ce soit les Airbnb ou l'inflation des résidences secondaires. C'est pour ça que moi, personnellement, je propose d'augmenter un impôt, c'est la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. On a là aussi une dérive de rentabilisation du bâti canné qui est incompatible avec les urgences sociales d'aujourd'hui. Ça, c'est très clair.
Ces Airbnb apportent aussi des touristes. C'est oui. Quand même quelque chose qu'il faut réguler, Aurélien Guidi.
Oui, on est là face à un conflit d'usage. Qu'est-ce qu'on fait des logements à Caen ? Bien sûr, il y a besoin de permettre une activité touristique, bien sûr. Mais il faut qu'on l'encadre. Je rejoins ce que disait aussi Xavier Lecoutour sur la question des résidences secondaires. Je suis intervenu au conseil municipal sur cette question-là. On a un peu plus de 2500 résidences secondaires à Caen. Ça a fait un bond de 800 plus 800 sur les deux dernières années. La municipalité a la possibilité d'agir pour effectivement via la taxe sur les résidences secondaires pour l'augmenter. Aujourd'hui, on est au seuil minimum. On peut augmenter cette taxe de 60%. C'est ce qui représenterait des recettes fiscales pour la ville, mais qui permettrait aussi de donner comme message aux propriétaires, eh bien, remettez ces biens sur le marché de l'immobilier de façon à permettre de nouveau, de remettre en fonctionnement le marché de l'immobilier cannais.
Antoine Casini, il faut l'augmenter cette taxe ?
Écoutez, on peut augmenter la taxe sur les résidences secondaires comme on peut continuer à administrer et réguler, c'est la responsabilité du pouvoir public. Mais j'alerte sur un problème particulier. Par exemple, sur le plafonnement des loyers. Très peu de villes le font. La ville de Lyon le fait, mais de manière extrêmement transitoire. Parce que si, parallèlement au plafonnement des loyers ou à la régulation du marché, vous n'avez pas une offre de construction qui monte, alors vous êtes dans une situation impossible. Et il faut qu'on règle le problème. Si on ne fait pas d'étalement urbain, si on ne fait pas d'étalement urbain au regard de la demande, alors il faut densifier. Il faut qu'on soit au clair, parce que c'est l'élément central. Le reste, c'est de l'administration et de la régulation intéressante, mais transitoirement utile.
Voilà, je suis désolé. On va devoir se quitter. C'est la fin de ce débat. Je vous remercie à tous les cinq d'avoir été parmi nous ce midi. C'est ainsi que s'achève ce débat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À notre
Merci.
Écoute.
Merci.
Merci. Merci.